France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h19, un feuilleton qui dure, encore plus que Neymar au PSG, c'est dire. Le Brexit, avec comme nouvel épisode cette suspension du Parlement britannique voulue par le Premier ministre Boris Johnson. Les députés n'auront finalement que 2 semaines, fin octobre, pour discuter des modalités de sortie. Bonjour Alexandre Holroyd.
Bonjour.
Vous êtes député LREM des Français de l'étranger, vous représentez notamment ceux qui vivent au Royaume-Uni. Vous-même vivez à Londres, vous y avez grandi, fait une partie de vos études, votre père est britannique. C'est d'ailleurs en raison du Brexit que vous avez décidé de vous engager en politique. Vous êtes un Européen convaincu et vous avez été rapporteur du projet de loi Brexit. Alors Boris Johnson décide de faire taire son Parlement. En revanche, la rue s'exprime. Des rassemblements hier soir ont eu lieu à Londres, Manchester, Édimbourg. Une pétition contre cette mesure de Boris Johnson recueille déjà plus d'un million de signatures en seulement quelques heures. Ça peut se retourner contre lui, cette situation ?
Oui, ça peut se retourner contre lui parce que Boris Johnson, en prenant cette décision qui est quand même très controversée et qui jusqu'à très récemment semblait très improbable, augmente la probabilité de deux sorties de piste. Ou un Brexit dur sans accord, ou une rébellion au Parlement qui remettrait en cause son mandat.
Mais vous qui vivez à Londres, vous vous attendiez à une telle fronde populaire ?
Ah oui, il y a une angoisse qui est terrible à Londres. Vous savez, le pays est très très divisé. Partout dans le Royaume-Uni, il y a une angoisse qui est terrible. Il y a eu des immenses manifestations déjà à Londres contre la politique menée par le gouvernement de Boris Johnson et à l'époque de Theresa May. Et ce million de signatures sur cette pétition en ligne semble cohérent avec les immenses manifestations qu'il y a eu à Londres dans le passé. Donc oui, ça me paraît assez crédible. Grosso modo, pour résumer, le pays est divisé en trois. Et il y a 33% du pays qui veut rester dans l'Union européenne, il y a 33% du pays qui veut sortir de l'Union européenne et il y a 33% du pays qui hésite entre les deux.
Les opposants de Boris Johnson dénoncent un outrage à la Constitution en rappelant que le Royaume-Uni est l'une des plus vieilles démocraties du monde. Vous êtes sur la même ligne, il n'avait pas le droit de faire ça ?
Oui, écoutez, ça revient... Il me revient pas en tant que responsable politique français de commenter sur les arcanes constitutionnelles britanniques. C'est, d'après ce que je comprends, juridiquement acceptable. C'est une extension, enfin c'est une suspension du Parlement très longue par rapport à si historiquement.
Il y a toujours une suspension en septembre.
Il y a toujours une suspension en septembre. Normalement, elle dure une semaine ou deux. Cette fois-ci, elle dure 5 semaines. C'est très très surprenant comme décision. Je me souviens très bien que il y avait un responsable politique britannique de très haut niveau qui m'avait expliqué à l'époque où le Parlement votait l'accord de retrait, ou refusait de voter l'accord de retrait négocié par Theresa May, que toutes les grandes décisions britanniques des derniers 2 siècles ont été votées par le Parlement britannique. Et du coup, il était légitime que cette discussion ait lieu dans le Parlement britannique. C'est vrai que cette suspension remet un peu en cause cette vieille tradition britannique.
Ce Parlement suspendu, ça veut dire qu'on va tout droit au Brexit dur ?
Ça veut dire que les probabilités du Brexit dur, qui augmentent de façon régulière depuis un moment, puisqu'on se rapproche de la date qui est inéluctable, du 31 octobre, augmentent à nouveau. Et c'est ça qui est très important pour nous en France, parce qu'il faut être très clair, depuis le début, le Brexit, c'est un jeu à somme perdante. Individuellement, les 28 États membres de l'Union européenne y perdent, et collectivement, les 28 États membres de l'Union européenne y perdent. Et donc, il convient de s'y préparer le plus possible. Et dès avril dernier, le gouvernement a commencé à s'y préparer. Le Premier ministre avait dirigé une réunion interministérielle pour s'y préparer. Et c'est pour ça que, dès la fin de l'année dernière, on a voté une loi qui donne au gouvernement, enfin à l'Assemblée nationale, on a voté une loi qui donne au gouvernement des pouvoirs conséquents pour pouvoir se préparer à cette éventuelle sortie qui est très compliquée, puisque elle est non seulement difficile à prévoir en termes d'impact, mais en plus, on ne sait pas exactement quand elle interviendra. Il y a eu déjà 3 reports.
Et Normalement, c'est fin octobre, là.
Normalement, c'est fin octobre. Mais du coup, c'est pour ça que cette loi qu'on a votée, qui est une loi d'habilitation, donne au gouvernement des pouvoirs dérogatoires, en fait, pour pouvoir se préparer au mieux à la sortie du Brexit, qui aura des conséquences sur l'ensemble des pays européens et tout particulièrement évidemment sur le Royaume-Uni qui reçoit des conséquences très sérieuses.
Est-ce que vous pensez qu'on peut encore reporter, qu'il est encore possible de reporter cette date du Brexit, qu'il va encore y avoir des discussions avec les Européens ?
Alors, il faut être très clair, depuis le début, les Européens sont ouverts. On attend des Britanniques, des suggestions et une indication de leur désir. Le problème qu'on a, c'est que les Britanniques ont du mal à nous exprimer précisément ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, maintenant, il y a eu 3 reports de la date de sortie. La situation n'a pas changé fondamentalement au Royaume-Uni. Je pense que pour qu'il y ait un report, il faudrait un changement considérable C'est-à-dire, si je résume, une élection générale au Royaume-Uni ou un changement démocratique, un référendum, enfin quelque chose, un processus qui suggère qu'à la sortie, il y ait, les circonstances soient changées profondément. Il n'y a aucun sens à étendre une autre période d'extension sans changer quoi que ce soit.
Et un accord avec l'Europe, c'est envisageable. Boris Johnson le dit, en tout cas dans sa lettre, c'est ce qu'il explique, hein, qu'il va y avoir un Conseil européen mi-octobre. Et donc ça laissera 15 jours aux députés pour étudier éventuellement une nouvelle proposition. Ou... Il laisse entendre que c'est encore possible. C'est du bluff ?
Je pense qu'il faut qu'on soit toujours ouvert à cette possibilité, puisque c'est la meilleure possibilité pour le collectif, pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne, pour la France et pour le Royaume-Uni. Donc, il faut qu'on soit ouvert à cette possibilité. Mais il faut être très clair, il y a un accord qui a été négocié maintenant depuis 3 ans avec le gouvernement britannique, gouvernement dont Boris Johnson faisait partie à l'époque. C'est-à-dire que Boris Johnson est aussi l'héritier de ses actions en tant que ministre des Affaires étrangères de Theresa May. Et cet accord, c'est le meilleur accord qui a été trouvé en 3 ans de négociations menées par Michel Barnier avec grand talent, mais de négociations très difficiles, très compliquées, très techniques. C'est un accord qui est essentiel pour protéger, par exemple, les citoyens français qui vivent au Royaume-Uni et les citoyens britanniques qui vivent en France.
Ça, c'est votre avis, visiblement, de l'autre côté de la Manche, c'est pas la même chose.
Ah si, si pour le coup, les Britanniques se sont engagés, justement, à faire respecter ces droits des citoyens. Et ça a été une des parties de l'accord qui a été négociée en amont. Mais il faut comprendre que ces négociations sont très techniques, très compliquées. Donc, de refaire une négociation entière en 15 jours, ça semble illusoire, ou en tout cas, ça semble très ambitieux. Cela dit, si jamais les Britanniques ont des solutions parfaites à nous proposer ou des solutions très réfléchies à nous proposer dans les 15 jours qui suivent ou dans les 20 jours qui suivent, il va de soi qu'il est notre devoir de les considérer le plus sérieusement possible et, si possible, de les mettre en œuvre.
Donc, l'hypothèse la plus réaliste, c'est le Brexit sans accord. Ça changera quoi pour les Français de Londres et les Français du Royaume-Uni ?
Ça change tout. Vous savez, aujourd'hui, quand vous vivez dans un autre État membre de l'Union européenne, vous avez précisément les mêmes droits que n'importe quel citoyen. Vous êtes d'ailleurs sous la même juridiction qu'est la Cour européenne de justice. Donc aujourd'hui, les Français qui habitent au Royaume-Uni ont accès à tous les services qui font notre vie au quotidien, à l'école publique, à l'hôpital et ainsi de suite, sans même se poser de questions, puisqu'ils sont protégés par cette citoyenneté européenne qui nous protège collectivement. Au lendemain d'un Brexit dur, cette situation-là changera. Alors, les Britanniques ont mis en place un statut particulier pour les Européens qui vivent au Royaume-Uni, mais il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas la même chose que la citoyenneté européenne.
Vous resterez à Londres ?
Alors, moi, je vais continuer à faire l'aller-retour et je continuerai à faire l'aller-retour tout le temps, puisque moi, mes électeurs sont partout en Europe du Nord, donc je fais tout le temps l'aller-retour entre Londres, mais aussi entre Birmingham.
Vous pourriez vous installer ailleurs, dans un autre pays.
Mais je pourrais m'installer à Paris. Je suis aussi représentant des Français qui vivent au Danemark, en Suède, etc., dans toute l'Europe du Nord. Mais il me paraît important de garder ce lien avec la circonscription, particulièrement aujourd'hui, où justement les Français qui vivent dans cette circonscription ont besoin d'avoir une voix qui les représente dans le débat public français.
Les risques de pénurie alimentaire, de pénurie de médicaments, de carburant, ce sont des risques réels ou on joue à se faire peur ?
Non, ce sont des risques réels. Vous savez, la particularité du Royaume-Uni, ça paraît un peu bateau de le dire, hein, mais c'est que c'est une île. Et que le seul... Enfin, il y a deux frontières. Il y a une frontière avec l'Irlande du Nord où il y a un véritable problème politique qui se pose. Mais la réalité, c'est que l'artère qui est le lien entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, c'est le tunnel sous la Manche. Et c'est par là que navigue, enfin, que navigue pas d'ailleurs, que transite l'intégralité ou une immense partie des biens qui sont vendus au Royaume-Uni et qui transitent entre l'industrie française, l'industrie européenne et l'industrie du Royaume-Uni. Cette artère-là, pour l'instant, il n'y a aucun contrôle, puisqu'on est dans le marché commun. Au lendemain d'un Brexit dur, il y aura des contrôles. Et devant la densité du trafic, qui est immense, il va de soi qu'il y aura un impact sur le trafic, le temps de trafic, et ainsi de suite, qui ensuite peut avoir toute une panoplie de ramifications dans tous les secteurs industriels britanniques.
Et oui, tout le monde est prêt de part et d'autre ?
Alors, la France est prête, puisqu'on s'y prépare maintenant depuis 9 mois. On a recruté des vétérinaires pour contrôler le bétail, on a recruté des douaniers pour contrôler les biens. Mais il faut faire une distinction qui est très importante entre le fait d'être prêt et le fait de penser qu'il y aura une différence. On est prêt, mais la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a des conséquences, qu'on soit prêt ou non. Il faut être prêt pour pallier aux effets les plus graves, mais sortir de l'union douanière, sortir du marché commun, c'est-à-dire avoir des réglementations différentes sur l'ensemble de ces produits, sur l'ensemble de ces biens, ça a des conséquences très très claires et ça en aura dans le cadre d'un Brexit dur.
Merci Alexandre Holroyd, député LREM des Français de l'étranger. Vous étiez l'invité du 5-7 ce matin.
Merci.